Chronique d'un nouveau monde numéro 29, le 30 janvier 2024. L'assassinat planétaire, une seule bonne raison d'être, et la jeunesse du renouveau par le processus de la fusion avec l'esprit.
Prendre connaissance des actualités journalières pour se rendre compte des abominations en cours sur la planète et se désoler du désordre qui y règne, relève désormais de la stupidité, voire d'un supplice pour l'esprit des vrais humains en devenir. Mais pour les humains ordinaires, il n'existe toujours que toutes ces horreurs colportées dans les actualités par la médiocrité des médias officiels. Quoique, après de multiples efforts, les gens ordinaires, qui tant bien que mal commencent à se réveiller, remarquent tout de même que quelque chose d'autre est en train d'arriver. Et oui, le monde moderne est en faillite, il était temps de l'admettre. Car quelqu'un a fait bouger la toile, quelqu'un a dérangé le principe de l'économie mondiale. Les banques s'effondrent les unes après les autres. C'est probablement à cause de la guerre, pensent les uns, alors que les autres argumentent, disons pour faire court, que c'est la faute des gouvernements, ou pire encore, la faute à pas de chance. Tandis que le chaos s'installe fermement sur l'ensemble de la planète, quelques langues se délient pour accuser le système instauré par les élites oligarchiques maçonniques, à moins que ce ne soit celui du nouvel ordre mondial. Par exemple, les pseudo-crises sanitaires, qui par une propagande surmédiatisée infestent de manière de plus en plus agressive notre quotidien depuis plus de 4 ans, deviennent désormais uniques dans l'histoire contemporaine. La politique, la finance, la crise climatique et les objectifs de développement durable sont imposés par ceux-là même qui détruisent la planète. Ce déchaînement de mensonges devient l'essence même de ce Great Reset, imaginé soit par les réseaux criminels occultes du nouvel ordre mondial, soit par ceux du futur ordre international. Pourtant, pendant que le monde garde les yeux rivés sur les combats en Ukraine, ou sur les horreurs en Palestine et en Israël, leurs conséquences directes ou indirectes progressent et explosent violemment dans d'autres pays en Europe et dans le monde. En témoigne la flambée des émeutes dans les cités et les grandes villes dans le monde, celle du nombre de nouvelles contaminations ERIS, un énième pseudo sous-variant du COVID, ou encore l'augmentation des changements anthropocosmiques planétaires par lesquels est révélée au grand jour l'ampleur du trafic d'organes et celui des enfants enlevés en Ukraine, en Afrique, en Palestine, etc. En outre, d'autres grandes guerres ou destructions se préparent sur d'autres continents. À l'image de la Russie, l'Afrique cherche à retrouver son indépendance. Pareillement, l'Inde sera amenée à procéder de même vis-à-vis du Royaume-Uni. Mais de par leur velléité de s'affranchir du colonialisme de la France et de l'Europe, les gouvernements africains, par exemple, ne s'aperçoivent pas pour le moment qu'ils s'en remettent encore soit à la souveraineté américaine, soit à celle de la Russie. Aucun d'eux n'a su reconnaître sa propre force, celle insufflée par l'esprit des peuples qui constituent l'Afrique ou l'Inde. Entendons-nous bien, le monde change, les polarités des jeux s'inversent. Les complots du nouvel ordre mondial, révélés par les complotistes, deviennent les complots des anti-complotistes du nouvel ordre international. Les boucles se répètent, tout se rejoue et recommence, car l'homme n'a toujours pas compris la puissance des lois karmiques. Désormais, les forces cosmiques sont sérieusement de la partie. Les catastrophes naturelles n'ont pas attendu pour faire ressurgir l'horreur perpétrée par l'homme, puisque l'une des plaques tournantes du trafic d'enfants au Maroc a été anéantie. Et bien que souvent elles y contribuent, ce ne sont pas les armes dites sismiques ou climatiques qui en sont à l'origine. En tout cas, l'homme, aussi moderne et intelligent qu'il croit l'être dans ce cosmos, reste une entité électromagnétique qui, lorsqu'il ne se rend pas compte qu'il magnétise tous ces cataclysmes, c'est-à-dire qu'il attire à lui-même toutes ces catastrophes naturelles, reste simplement soumis à la loi universelle du karma, la loi de cause à effet. Pourtant, en cette fin de cycle, les gens sont destinés à s'éveiller les uns après les autres, à faire progresser leur conscience, à s'émanciper de leur schéma karmique et à changer de densité d'existence. Réfléchissons maintenant et basons-nous sur l'observation de ces multiples événements et catastrophes. N'existerait-il pas une très bonne raison à l'exponentielle augmentation de tous ces cataclysmes que l'humanité est en train de subir? Le grand plan cosmique ne reproduirait-il pas tout simplement la macrodynamique de la physique atomique microdynamique au niveau de notre réalité visible? Des phénomènes se produisant au sein de l'atome, qui ne sont que la reproduction de la mécanique du cosmos, aurait désormais et vraisemblablement de très bonnes raisons de commencer à se révéler aux yeux de certains humains. Car des sauts quantiques dans le processus de la fusion-liaison entre certains types d'atomes et les opportunités quantiques dans le monde des particules provoqueraient à taille réelle, c'est-à-dire dans le monde que nous percevons comme tel, des bonds d'accélération temporelle résultant de l'ascension vibratoire des plans de l'astral. Ce processus de fusion-liaison, à savoir l'ajustement électromagnétique de la structure atomique, modifierait la vitesse de convergence du cycle temporel et nous préparerait au transfert à travers les plans aux dimensions de réalité. Ces accélérations du cycle se traduisent ensuite par des sensations hyperkinétiques, autrement dit des choses, des événements, s'enchaînant et se succédant tellement rapidement que l'ego de l'humain est forcé de perdre tous ses repères dans l'espace-temps. Ces accélérations de fréquence, qui seraient le résultat de l'activité solaire et planétaire, sont, pour faire très court, en train de participer au grand nettoyage des parasites psychiques de l'homme sur sa planète. Le résultat final de ce grand ménage sera la descente dans son corps de sa supraconscience, autrement dit de l'esprit supérieur de l'homme nouveau. Nous avons déjà quelques notions de ce phénomène d'abrogation progressive des pouvoirs de l'âme, c'est-à-dire celui de la fusion directe et hors ego avec notre esprit, puisque les premiers symptômes qui annoncent cette descente de l'esprit dans le corps de l'homme nouveau se traduisent en premier lieu par des pertes progressives de la mémoire. Durant ce processus de fusion avec le soi supérieur, le vrai être humain va progressivement et psychiquement pouvoir se retirer du plan astralisé de la troisième densité, en l'occurrence de notre réalité actuelle. Ce vrai humain ne participera donc plus jamais à une guerre, tandis que les animaux humains seront toujours volontaires pour s'engager dans les armées ou les milices pour en découdre avec l'adversaire. L'évolution de l'homme passait donc d'abord par l'animal tout court. Puis, à un moment donné, investi d'une âme, il devenait un animal humain, du fameux bestiaire céleste décrit par Anton Parks, plus proche de l'homme. Ensuite, investi d'un peu plus de conscience, il est devenu humain. Ce stade d'évolution correspond à celui de l'homme moderne actuel. Ce ne sera qu'ensuite, investi de l'intelligence de l'esprit, qu'il deviendra le véritable être humain fusionné, non plus avec son âme, mais directement avec son esprit. Ce dernier, l'humain de la sixième race, se prépare donc désormais à peupler les plans astraux supérieurs de la nouvelle Terre.
Question à l'ange. L'homme, soi-disant si moderne, intelligent et évolué, ne connaît-il vraiment pas encore les lois cosmiques de l'évolution, dont celle de la fusion avec l'esprit?
Effectivement, l'humanité moderne ne se doute pas encore des incommensurables bénéfices de la fusion avec l'esprit, simplement parce qu'elle vient d'accomplir, durant les derniers millions d'années, un cycle d'évolution sous sa forme d'animal humain. C'est pourquoi beaucoup de ces humains modernes, toujours investis des mémoires animales de l'âme, et ne sachant pas plonger dans les plans de l'esprit, encore complètement inconnus de leur ego astralisé, continueront à vénérer l'animal humain. Et parce qu'ils vénèrent encore l'ancien monde, celui de l'Atlantide, celui de l'animal humain, presque toutes les batailles, conflits ou résistances organisées auxquelles les humains, animés par l'âme, ont participé, se sont terminées à un cheveu de la victoire à cause de la même erreur critique, les luttes intestines induites par les mémoires animales du passé. Les membres d'un même groupe se retournant les uns contre les autres, ceci parce qu'ils restaient toujours investis des mémoires génétiques d'un quelconque passé. Observez n'importe quel groupe politique, militaire ou n'importe quel rassemblement d'humains, vous verrez toujours un troupeau de moutons dociles et peureux qui se battent ou se défendent pour une utopie. De la sorte, et à cause de ce phénomène d'attachement au passé, répandre des programmes de méfiance dans la société reste donc très souvent une stratégie gagnante pour le pouvoir en place. Cette stratégie lui permet même de réaliser l'économie d'avoir réellement à entreprendre quoi que ce soit pour saccager le mouvement de rébellion en cours. Car simplement rattaché par son âme à ses mémoires, l'humain ne sait pas encore faire appel à son esprit pour s'extirper de la dualité de son monde. La lutte démocratique ne fonctionnera donc jamais pour triompher du dualisme matriciel et instaurer la paix en l'absence de l'esprit, parce que depuis la Genèse, tous ces rouages sont programmés par de la niaiserie et de l'ignorance. L'humanité ordinaire de votre planète, y compris vos plus éminents penseurs et scientifiques, y restera donc soumise pour le meilleur et pour le pire, aussi longtemps qu'elle refusera de reconnaître sa programmation. Toutefois, cette humanité actuelle vient d'émerger de l'enfance et arrive présentement au stade de l'adolescence pour que certains initiés puissent la préparer à laisser s'effondrer des bribes de conscience de l'animal humain. Ceci afin que l'homme puisse peu à peu être contrôlé par l'esprit du véritable être humain, c'est-à-dire l'intelligence de l'esprit supérieur fusionnée en l'homme et non plus avec la conscience mémorielle de l'homme, comme ce fut le cas jusqu'à présent. L'évolution de l'homme et de tous les animaux humains représentés par le bestiaire céleste n'avait jusqu'à présent qu'une seule utilité sur le plan planétaire, celle de conserver leur corps physique de façon à procréer et engendrer d'autres vies et formes de vie. Croître et se multiplier restait donc simplement le rôle de l'animal humain. Et inévitablement, lorsqu'il expérimente cette forme évolutionnaire, il la vit et l'habite sous la forme de l'animal humain, restant tout bonnement et totalement manipulé par le monde de l'astral, uniquement investi par l'intelligence des âmes astralisées.
Question à l'ange. Si elle n'est pas dans ce monde, d'où proviendrait alors l'intelligence de l'homme nouveau ?
La véritable intelligence de l'homme nouveau n'émanera plus de l'astral, mais émergera des mondes hyperdimensionnels, autrement dit, de bien au-delà des croyances et des phénomènes mémoriels inhérents aux différents plans d'existence de votre planète. Vous devez donc pouvoir comprendre que votre corps physique, doté d'une âme également incarnée dans le futur et le passé sur d'autres plans de réalité un peu partout dans l'univers, peut désormais percevoir et ressentir ce processus électromagnétique de réajustement de sa structure atomique qui fait converger les expériences émotionnelles ressenties sur chacune des lignes de réalité que votre âme explore. Cela sous-entend que cette convergence vous autorise non seulement à ressentir de l'émotionnel éprouvé par vos alters, les moi morts, sur d'autres plans d'existence, mais vous prépare également à l'éthérisation de votre corps actuel. Ce dernier, s'apprêtant également au transfert à travers d'autres plans ou dimensions de réalité, percevra cette modification de la vitesse de convergence de ces différents cycles temporels. Toutefois, l'âme possédant le contrôle total du système endocrinien, découlant de ses expériences ressenties sur chacune des lignes de réalité, et ceci, quels que soient les plans d'incarnation, les émotions qui sont exprimées dans ces différents corps se répercutent par résonance vibratoire par le champ morphogénétique à travers l'infinitude de l'univers et sont réceptionnées par votre corps d'incarnation présent. Mais tant que les corps de ces alters n'expriment pas leurs émotions par les hormones endocrines, l'ego ne ressent rien et l'âme ne sait pas que le corps s'exprime. L'ego n'a tout bonnement pas conscience des émotions si ces hormones ne sont pas libérées dans le corps. Toutefois, l'âme dispose du contrôle de son périsprit qui, lui, quel que soit le plan de réalité, reste en contact avec le système neurologique endocrinien de l'individu incarné dans un corps astralisé. Le rôle de l'homme incarné dans des plans astralisés, et donc effectivement et simplement d'animer un corps biophysique jusqu'à ce qu'il devienne un véhicule suffisamment physique et solide pour que l'intelligence de l'esprit puisse y plonger et l'animer. Alors, inévitablement, tout ce que l'individu entreprendra sera en fonction de ses sécrétions hormonales. Évidemment, certaines sécrétions endocrines sont merveilleuses, d'autres le sont beaucoup moins et provoquent parfois des symptômes et des maladies. Évidemment aussi, du point de vue de l'ego, l'individu peut souffrir. Mais c'est ainsi que son corps mute et lui fait découvrir de nouvelles très bonnes raisons de vivre. Tout ce que l'humain expérimente également comme souffrance sur le plan de l'astral planétaire est simplement une question de sécrétion d'hormones. L'être humain pouvait éliminer tous les contacts qui, au niveau neurologique de son cerveau, permettent à l'âme de s'exprimer, il deviendrait un être humain qui ne souffrirait pas, qui ne saurait pas qu'il est heureux ou malheureux. Il serait donc un corps soumis à la vie et uniquement intellectuellement ou mentalement dépendant des mémoires de l'âme. Et s'il n'y avait pas le mental supérieur et la conscience induite par l'esprit pour comprendre la vie, et pour prendre la relève de l'âme, l'homme resterait simplement un zombie mentalement assujetti aux mémoires de l'astral. Mais quand l'homme développera le mental de l'esprit pour prendre la relève, il se transformera au niveau cellulaire en véritable être humain. Et lorsqu'en lui, les contacts avec l'âme seront totalement coupés, et il va devoir y parvenir, il expérimentera ce que nous appellerons désormais une mutation par cellularisation de l'événement. L'individu devra progressivement transformer ses codes génétiques pour que doucement de nouvelles facultés lui soient transmises. Ainsi, pour organiser la fusion avec son esprit, nous, dans votre futur, devions demander à l'être humain de changer. Et pour qu'il puisse endurer ces changements, son corps devait être modifié et réajusté jusqu'au niveau de l'atome.
Question à l'ange. J'ai eu récemment l'occasion d'entrer davantage en contact avec les champs énergétiques de quelqu'un du groupe Léo. Ce rapprochement déclencha notamment une série de visions, dont celle d'entités oiseaux humanoïdes. Pourquoi ces êtres se sont-ils montrés ainsi, particulièrement sous l'apparence d'un aigle harpie doté de jambes humaines ou d'un serpentaire portant un pantalon?
Ce peuple d'hommes-oiseaux existe bel et bien et sa génétique fait partie de l'essence humaine. Cette race galactique est particulièrement douée dans son rôle d'assembleur de vie, puisque ces êtres possèdent les capacités d'en imaginer et d'en concevoir les structures sur le plan atomique. Comme vous le savez maintenant, les généticiennes reptiliennes, les Amasutum, sont spécialisées dans l'assemblage et l'ajustage du génome des différentes formes de vie qui peuplent votre secteur de l'univers. Alors que les hommes-oiseaux, les Soukal, seraient plutôt spécialisés dans la création et la configuration des atomes. Comme il te l'a été montré, ces humanoïdes oiseaux savent assembler la matière constituant les véhicules biophysiques, entre autres des corps ou des organismes évoluant dans votre monde de troisième densité. Pour ce faire, ils utilisent les solides de Platon comme schéma de base pour en configurer ou assembler les atomes. Les hommes-oiseaux sont des entités déjà plus humaines que oiseaux, peuplant parfois les plans supérieurs de l'astral cosmique. Eux aussi ont légué des parts de leur code génétique pour participer à la création de la nouvelle Terre d'une fréquence vibratoire plus élevée. Les atomes configurés par l'imagination de ces êtres sont projetés et reproduits dans les branes vacantes de l'univers, comme sur des pages blanches, pour créer de nouvelles galaxies, de nouvelles planètes, de nouveaux systèmes solaires, puis de nouvelles réalités, qui parfois sont simplement des reproductions légèrement modifiées de réalités déjà existantes. Ces entités oiseaux sont des corps déjà investis par l'esprit du futur humain. Elles soutiennent et participent également à un centre de conscience rassemblant tous ces peuples, races humaines, non humaines, humanoïdes, animales, que forme le bestiaire céleste, dont l'ADN s'inscrit dans la biologie de l'humain du futur. Elles sont donc appelées, comme l'homme ancien, à fusionner avec leur esprit, afin de muter ou se transformer en des êtres ou des humains de la sixième, puis de la septième race. Et en tant qu'humain de cette sixième race, vous aurez bientôt l'occasion de faire des rencontres rapprochées avec ces entités galactiques qui, pour beaucoup, possèdent des centres de conscience établis dans les Pléiades.
Question à l'ange. Pourquoi l'être humain de l'ancien monde n'était-il pas équipé pour percevoir les fréquences lumineuses provenant des autres mondes?
Il était génétiquement restreint par son double dans son rôle d'observateur de la troisième densité. Autrement dit, son talent de lecteur de lignes temporelles, tel qu'il était en troisième densité, ne pouvait se révéler que grâce aux fréquences de vibration des photons, la lumière, qui éclairaient et révélaient ce qu'il prenait comme la réalité de son monde. Mais pour comprendre ce qu'est cette lumière, vous devez d'abord accepter que vous ne puissiez pas distinguer toutes les sortes de fréquences photoniques qui s'expriment ou se présentent dans votre champ de vision. Ceci parce que l'œil, capturant ses propres photons, fonctionne comme un trou noir, c'est-à-dire qu'il considère ou aspire une bande de fréquences mentales bien délimitée, afin que la lumière révélant cette vibration lente et dense issue du mental subconscient puisse se former dans une zone à l'arrière du cerveau. Cette lumière va alors être traitée par les neurones et être reprojetée ou réexprimée dans le monde sous forme de champs électromagnétiques atomiques pour composer ce que vous considérez comme l'image de votre réalité. Le cerveau n'est donc en lui-même qu'un organe qui limite ou filtre le flux d'informations. L'univers dans lequel vous vivez et évoluez est donc tout bonnement une projection mentale, un hologramme émanant de votre esprit, qui est contrôlé par des programmations génétiques. Ces projections mentales s'expriment en se densifiant dans votre monde par la gravitation, les ondes de gravité et la fluctuation lumière qui éclaire votre monde étant strictement la même chose. C'est la raison pour laquelle vous êtes roi dans votre royaume, puisqu'à travers votre esprit, vous êtes créateur de la réalité quotidienne, non seulement que vous voyez, mais que vous ressentez par l'expérience. Le tout, l'un, l'univers et esprit. Le monde physique que vous percevez, autrement dit la troisième densité astralisée, votre réalité, est une projection mentale découlant de l'agitation de vos pensées. Ainsi, à travers cette agitation, la lumière à faible fréquence vibratoire se densifie en matière que l'œil humain peut percevoir. Alors que la matière à plus haute fréquence, à savoir l'éther qui s'élève et se transforme en lumière, n'est plus visible par l'œil humain astralisé, c'est-à-dire assujetti aux fréquences de troisième densité qui régissent votre monde actuel. La seule chose qui existe est donc la lumière. Et cette lumière transporte toutes sortes d'informations, couleurs, formes, reliefs, qui ne révèlent que des ondes de forme physique ou psychique lorsque ces fréquences sont réceptionnées par l'œil, l'oreille ou la peau. Aussi, toutes les ondes qui existent dans le cosmos sont des vibrations alternativement ascendantes puis descendantes, c'est-à-dire sinusoïdales. De cette manière, l'apparence de l'homme aussi est révélée par des ondes de forme, car il est un être de lumière qui se manifeste dans les mondes de matière astralisée sous une forme physique plus densifiée. Alors que des ondes de forme à haute fréquence le transformera dans un prochain cycle en un être plus éthéré, à savoir un être de lumière, généralement invisible et imperceptible aux humains ordinaires. L'œil en lui-même, c'est-à-dire l'organe qui équipe le système optique d'un corps humain astralisé dans ce cycle, ne permet donc que de voir ou d'observer des séquences de temps défilant à environ 30 images par seconde. Cette fréquence vibratoire, en concordance avec la vitesse perceptible de la lumière, est ajustée selon votre perception linéaire du temps. Alors que si elle était indépendante du cerveau astralisé, la lumière n'aurait aucune vitesse. Elle serait simplement omnipotente, toute puissante, et l'œil pourrait percevoir une transmission d'informations à des débits ultra élevés. L'œil n'est donc rien d'autre qu'un cristal organique biologique conçu pour concentrer la propagation des ondes électromagnétiques émises par vos pensées ou votre imaginaire. Ce cristal organique affecte le déplacement des électrons en propageant une succession de bandes d'énergie autorisées ou interdites. L'absence de propagation de ces ondes électromagnétiques dans une plage de fréquence ou de longueur d'onde admise par l'œil pourrait être qualifiée de bande interdite car elle annule les effets engendrés dans la réalité par la gravitation. Alors que les ondes électromagnétiques, lorsqu'elles sont présentes dans cette même plage de fréquence, sont capables de générer des effets gravitationnels pour devenir une réalité densifiée qui, en tant qu'observateur, devient celle qui, dans votre espace-temps présent, vous est propre. Afin de poursuivre un peu au sujet des fréquences, vous devez également savoir que de nombreux phénomènes soi-disant paranormaux peuvent être programmés dans le génome humain par une succession de mots et de fréquences vibratoires assujetties à ces mots. Ces derniers possèdent des effets de résonance importants sur l'ADN humain, puisque des données ainsi stockées dans votre génome le sont de la même manière que dans la mémoire d'un ordinateur. Ainsi enregistrés, ces codes génétiques utilisent des règles de grammaire et de syntaxe d'une manière très proche du langage humain. La génétique explique donc pourquoi des phénomènes auparavant mystérieux comme la clairvoyance, l'intuition, la guérison, la lumière surnaturelle, l'aura, ne se révèlent ou ne peuvent être perçus que lorsque vous en prenez conscience et parce que vous pouvez en expliquer le phénomène à autrui. La lumière résulte donc tout simplement d'une insatiable quête de vérité lorsque vous cherchez à voir ou à comprendre avec passion et insistance. Elle est donc non seulement information visuelle, mais aussi information psychique. Le langage consiste donc en quelque sorte en une verbalisation de ces codes génétiques pour éclairer la psyché. Et si vous savez que vous êtes vous-même créateur de vos pensées, il est capital de saisir l'importance de faire attention à ce que vous pensez, ce que vous dites, la manière dont vous le dites, etc. Car l'ADN change en fonction des mots et des phrases que vous prononcez. L'ADN humain vivant, c'est-à-dire présent dans votre corps de troisième densité, peut être modifié et réorganisé par des mots et des phrases prononcées par l'individu lui-même. Mais la clé pour changer l'ADN avec des mots et des phrases réside dans l'usage avec justesse des mots, du langage et surtout de la fréquence vibratoire corroborant le mot. Cette fréquence vibratoire qui accompagne l'émission de la parole est extrêmement importante pour pouvoir enseigner à l'ego de l'homme. Car intuitivement, l'ego du nouvel humain en devenir rejette l'information si celle-ci ne corrobore pas la fréquence vibratoire de l'individu qui la délivre. Très grossièrement, le détecteur de mensonges ou polygraphe, un appareil qui mesure les réactions psychophysiologiques de l'individu lorsqu'il est interrogé, afin de déterminer s'il dit la vérité ou s'il ment, fonctionne sur ce même principe. Il est possible ainsi d'influencer le métabolisme cellulaire et même de corriger certains défauts génétiques en utilisant les fréquences et le langage. Vous pouvez obtenir des résultats encore plus extraordinaires en groupe, car par ce travail, des schémas d'information peuvent être transférés d'un ensemble d'ADN à un autre. Votre ADN est naturellement programmable et donc programmé pour répondre aux mots. Les spécialistes de la communication, les ésotéristes et les gourous spirituels l'ont toujours su. Toutes les formes de suggestion, c'est-à-dire de transmission de l'énergie de la pensée, sont largement basées sur ce phénomène. Toutefois, ces méthodes de transmission de l'énergie de la pensée, soi-disant mystérieuses, ne réussissent pas de la même manière à tous ceux qui les utilisent, puisqu'une bonne communication avec l'ADN nécessite l'utilisation de la bonne fréquence. Les individus ayant leur processus interne de discernement et de prise de conscience plus développé seront donc davantage capables de générer consciemment un canal de communication avec leur ADN. Et puisqu'ils pourront utiliser plus adéquatement leurs fréquences radio-lumineuses, en fonction de la progression de leur conscience, ces gens pourront obtenir de meilleurs résultats en utilisant spécifiquement leurs propres mots, leurs propres pensées et leur propre imagination. Ceci puisqu'ils informent eux-mêmes leur propre ego au lieu de laisser un informateur extérieur le programmer. Aussi dans ces cas-là, l'intuition est primordiale, car les humains pourront désormais mieux l'utiliser. L'intuition n'est rien d'autre que de l'hypercommunication avec le double, entre les dimensions ou entre les densités, par laquelle une personne reçoit soudainement des informations d'une source qu'il identifie comme externe à lui-même, par exemple une information transmise par son esprit, et non qu'il croit provenir de son intellect, c'est-à-dire de sa base personnelle de connaissances. Ce phénomène de l'intuition était devenu de plus en plus rare dans les mondes astralisés de troisième densité. Cela est dû au fait que les trois principaux facteurs qui inhibent l'hypercommunication sont la tension intérieure, l'anxiété et l'hyperactivité cérébrale, qui découlent du fait de trop penser ou de trop réfléchir. Ces symptômes d'hyperactivité sont ceux d'un ego involutif et astralisé. Ils sont devenus extrêmement courants dans votre monde moderne. Pour certaines catégories d'êtres vivants, l'hypercommunication est étroitement tissée dans leur existence quotidienne. Et grâce à cette faculté, beaucoup d'humains pourront bientôt récupérer des compétences perdues qu'ils réapprendront à utiliser. Aussi, la science a découvert que votre ADN peut générer ce qu'elle appelle des trous de ver magnétisés, qui ne sont que des versions miniatures des ponts électromagnétiques que forment entre elles les étoiles presque éteintes. Ces tunnels relient différentes régions de l'univers et autorise la transmission d'informations en dehors de l'espace et du temps. Alors si l'humain pouvait déjà activer et gérer ses connexions consciemment, il serait en mesure d'utiliser les propriétés de son ADN pour transmettre et recevoir des informations conscientes et choisies provenant du champ morphogénétique, c'est-à-dire du réseau de données de l'univers. Il pourrait également contacter ou communiquer avec d'autres membres du réseau auquel il appartient et retransmettre des données à ce groupe de conscience, où qu'il soit dans le cosmos et dans le temps. À l'heure actuelle, même si ces exemples restent isolés, des personnes utilisant certaines de ces méthodes de télépathie excellent dans la guérison à distance parce qu'elles savent comment utiliser la visualisation de l'image d'un organe sain à distance. Aussi, les résultats de ces changements dans votre ADN reflètent les changements importants qui se produisent sur la Terre, dans le Soleil et dans notre galaxie. Ces changements dus à l'influence de fréquences lumineuses plus élevées affectent désormais l'ADN humain et le développement de sa conscience d'une manière que vous ne comprendrez pleinement que dans un avenir plus lointain.
Question à l'ange. Depuis quelques jours déjà, certaines personnes dans notre groupe Léo sont sujettes à de très intenses douleurs thoraco-abdominales, englobant également les parties génitales, la tête et le crâne. Ces douleurs durent parfois quelques heures, disparaissent, puis reviennent quelques moments après. Elles s'apparentent à d'intenses brûlures intérieures au niveau du ventre et du sternum, puis des yeux, et semblent irradier en dehors des limites physiques du corps. Nous soupçonnons que ces brûlures ont quelque chose à voir avec les symptômes du changement émotionnel qui approche. Est-ce le cas ?
Au-delà des effets des éruptions solaires, ces brûlures sont le résultat de ce que les occultistes nommaient la souffrance, autrement dit, la chaleur émise par la combustion de la matière dense, le plomb, produisant une matière plus noble, l'or, la lumière ou la quintessence de la matière, jaillissant dans l'athanor de l'alchimiste. Ce feu dans votre athanor intérieur, provoqué par la souffrance, le soufre en soi, est l'indicateur de votre propre transformation. Cette sensation de brûler de l'intérieur, mais qui n'a absolument rien à voir avec de la fièvre, est due au phénomène de la cellularisation, c'est-à-dire la destruction des mémoires cellulaires de l'âme et la désagrégation des structures atomiques garantissant la stabilité et le maintien de la physicalité du corps en troisième densité. Cette déconstruction progressive des corps de troisième densité provoquera un réajustement des structures atomiques par leur expansion, ce qui, en quatrième densité, les conduira à leur éthérisation et donc à l'immortalité. Cette sensation de brûler est provoquée par la fusion du corps de l'individu avec son esprit. Les initiés, qui par le passé avaient déjà vécu cette transformation, avaient représenté la forme de cette énergie par la fameuse mandorle, Vesika Pesci, accueillant le Christ ressuscité. Voir le lien sur notre site. Votre corps commence à subir cette transformation qui sera très 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 difficilement supportable pour les gens qui n'y étaient pas préparés. Et ils n'y étaient pas préparés simplement parce qu'ils n'y croyaient pas. Et ils n'y croyaient pas parce que leur ego non informé, désinformé ou tellement programmé par les mensonges et les croyances religieuses ne pouvait accepter de comprendre le processus. Cette mandorle énergétique exprime la puissance du feu de l'esprit qui, si elle ne peut pas investir le corps humain, détruit sa forme, c'est-à-dire son corps, et tout l'environnement dans lequel son vaisseau corporel tente encore de survivre. Comprenez-vous alors pourquoi tous ces corps humains, tous ces individus emprisonnés par leurs croyances religieuses et qui attendent le retour sur Terre d'un Christ sauveur, un être soi-disant tout amour et lumière, sont détruits dans leur forme, soit par les catastrophes naturelles ou environnementales, soit par les bombardements provenant de cette ultime guerre qui bientôt deviendra mondiale et refermera la boucle temporelle post-Atlante. Les différences théologiques entre l'islam, le judaïsme, le christianisme romain ou orthodoxe, nés de cette période, sont malheureusement restées au stade d'opposition entre croyances sans aucun fondement. Au lieu de devenir un terrain d'études philosophique et un levier pour l'évolution de la conscience humaine, ces croyances ont été transformées en dogmes, désormais devenues le nerf d'une guerre qui oppose, osons le dire, des humains encore restés au stade animal, des entités de troisième densité, stupides, prétentieuses et ignorantes, qui ne méritent pas encore de gagner ce qu'elles croyaient être le royaume de Dieu. Il ne leur sera donc pas encore permis à la fin de ce cycle de progresser vers les mondes supérieurs. Dans ce monde tel qu'il se présente en cette fin des temps, il y eut beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. En tout cas, les appelés qui n'auront pas été élus le sauront très bientôt, parce que ceux qui commencent à rejoindre les royaumes supérieurs s'estomperont peu à peu de la réalité visible sur Terre. Transmis par Sand
et Genèle.